Monsieur Estafier.
Oui, chef.
Téléphone, c'est votre grand-mère.
Ricanement dans l'assemblée.
Dites-lui que je la rappellerai.
Dit le garçon qui désossait un morceau de viande.
Vous faites chier, les Estafier. Hein. Venez prendre ce putain de téléphone. Je suis pas demoiselle des postes, moi.
Le jeune homme s'essuya les mains avec le torchon qui pendait à son tablier, épongea son front sur sa manche et dit au garçon qui travaillait sur la planche d'à côté en faisant mine de le saigner.
Toi, tu touches à rien. Sinon, quick.
Il entra dans le bureau et prit le combiné en soupirant.
Mémé ?
Bonjour, Franck. C'est pas ta grand-mère, c'est Madame Carmino à l'appareil.
Madame Carmino ?
Oh, mais qu'est-ce que j'ai eu comme mal à te retrouver. J'ai d'abord appelé au grand comptoir, puis on m'a dit qu'il travaillait plus. Alors, j'ai appelé...
Qu'est-ce qui se passe ?
Mon Dieu, c'est Paulette.
Attendez, bougez pas.
Il se leva, ferma la porte, reprit l'appareil, s'assit, hocha la tête, pâlit, chercha sur le bureau de quoi écrire, dit encore quelques mots et raccrocha. Il enleva sa toque, prit sa tête dans ses mains, ferma les yeux et resta ainsi plusieurs minutes. Le chef le dévisageait à travers la porte vitrée. Il finit par fourrer le morceau de papier dans sa poche et sortit.
Ça va, mon gars ?
Ça va, chef.
Rien de grave ?
Le col du fémur.
Oh, bah, c'est fréquent chez les vieux. Hein. Ma mère, c'est lui arrivé il y a 10 ans. Vous la verriez aujourd'hui ? Un vrai lapin de Garenne.
Dites, chef.
On dirait que tu vas me demander ta journée, toi.
Non, je vais faire le service de midi. Et je ferai ma mise en place de ce soir pendant ma pause, mais j'aimerais bien quitter après.
Et qu'est-ce qui fera le show ce soir ?
Guillaume, il peut le faire, lui.
Il saura ?
Oui, chef.
Bah qu'est-ce qu'il me dit qu'il saura ?
Moi, chef.
L'autre grimaça, apostropha un garçon qui passait par là et lui ordonna de changer de chemise. Il se tourna de nouveau vers son chef de parti et ajouta.
Allez-y, mais je vous préviens, les staffies. Hein. S'il y a une couille pendant le service de ce soir, hein, si j'ai une seule remarque à faire, une seule, vous m'entendez ? Bah c'est sur vous que ça retombera. On est bien d'accord ?
On est bien d'accord, chef.
Il retourna à sa place, reprit son couteau et se remit au travail en silence. Au bout d'un moment, son commis osa.
Ça va ?
Non.
J'ai entendu ce que tu disais au gros. Le col du fémur, c'est ça ?
Ouais.
C'est grave ?
Non, je crois pas, mais le problème, c'est que je suis tout seul.
Tout seul pourquoi ?
Pour tout.
Guillaume ne comprit pas, mais préféra le laisser tranquille avec ses emmerdes. Franck l'estafier ne prononça plus une seule parole. Le service lui parut plus long que d'habitude. Il avait du mal à se concentrer. Aboyait quand le chef envoyait les bons et tâchait de ne pas se brûler. Il faillit rater la cuisson d'une côte de bœuf et ne cessait de s'insulter à voix basse. Il songeait au merdier qu'allait être sa vie pendant quelques semaines. C'était déjà compliqué de penser à elle et d'aller la voir quand elle était en bonne santé. Alors là, quel chienlit, putain, il manquait plus que ça. Il venait de se payer une moto hors de prix avec un crédit long comme son bras et s'était engagé dans de nombreux extras pour payer les traites. Où est-ce qu'il allait bien pouvoir la caser au milieu de tout ça ? Enfin, il n'osait pas se l'avouer, mais il était content de l'aubaine aussi. Le gros Titi venait de lui débrider son engin et il allait pouvoir l'essayer sur l'autoroute. Si tout allait bien, il allait se régaler et serait là-bas en à peine plus d'une heure. Il était moins de 6 heures quand il planta sa béquille sur le parking de l'hôpital. La dame de l'accueil lui annonça que le temps des visites était passé et qu'il pouvait revenir le lendemain à partir de 10 heures. Il insista, elle se raidit. Il posa son casque et ses gants sur le comptoir.
Attendez, attendez. On ne s'est pas bien compris, là.
Essayait-il d'articuler sans s'énerver.
J'arrive de Paris et je dois repartir tout à l'heure. Alors si vous pouviez...
Une infirmière apparut.
Que se passe-t-il ?
Celle-ci lui en imposait plus.
Bonjour. Excusez-moi de déranger, mais je dois voir ma grand-mère qui est arrivée hier en urgence et je...
Votre nom ?
L'Estafier.
Ah oui.
Elle fit un signe à sa collègue.
Suivez-moi.
Elle lui expliqua brièvement la situation, commenta l'opération, évoqua la période de rééducation et lui demanda des détails sur le mode de vie de la patiente. Et il avait du mal à percuter, soudain gêné par l'odeur du lieu et par le bruit du moteur qui continuait de bourdonner à son oreille.
Le voilà, votre petit-fils !
Annonça gaiement l'infirmière en ouvrant la porte.
Vous voyez, je vous l'avais bien dit qu'il viendrait. Bon, je vous laisse. Passez me voir dans mon bureau, sinon on ne vous laissera pas sortir.
Il n'eut pas la présence d'esprit de la remercier. Ce qu'il voyait là, dans ce lit, lui brisa le cœur. Il se retourna d'abord pour retrouver un peu de contenance, défit son blouson, son pull, et chercha du regard un endroit où les accrocher.
Il fait chaud ici, non ?
Sa voix était bizarre.
Ça va ?
La vieille dame, qui essayait vaillamment de lui sourire, ferma les yeux et se mit à pleurer. Il lui avait retiré son dentier. Ses joues semblaient affreusement creuses et sa lèvre supérieure flottait à l'intérieur de sa bouche.
Alors ? T'as encore fait la folle, c'est ça ?
Prendre ce ton badin exigeait de lui un effort surhumain.
J'ai parlé avec l'infirmière, tu sais, et elle m'a dit que l'opération s'était très bien passée. Te voilà avec un joli morceau de ferraille à présent.
Ils vont me mettre dans un hospice.
Mais non, qu'est-ce que tu nous chantes là ? Tu vas rester ici quelques jours et après t'iras dans une maison de convalescence. C'est pas un hospice, c'est comme un hôpital mais en moins grand. Ils vont te chouchouter et t'aider à marcher et après, hop, au jardin la Paulette.
Ça va durer combien de jours ?
Quelques semaines. Après ça dépendra de toi. Il faudra que tu t'appliques.
Tu viendras me voir ?
Bien sûr que je viendrai. J'ai une belle moto, tu sais.
Tu ne roules pas trop vite au moins.
Une vraie tortue.
Un menteur.
Elle lui souriait dans ses larmes.
Arrête ça, mémé, sinon je vais chialer moi aussi.
Non, pas toi, tu pleures jamais, toi. Même quand t'étais minot, même le jour où tu t'es retourné le bras, je ne t'ai jamais vu verser une larme.
Arrête quand même.
Il n'osait pas lui prendre la main à cause des tuyaux.
Franck.
Je suis là, mémé.
J'ai mal.
C'est normal, ça va passer. Il faut que tu dormes un peu.
J'ai trop mal.
Je le dirai à l'infirmière avant de partir. Je lui demanderai de te soulager.
Tu vas pas partir tout de suite.
Mais non.
Parle-moi un peu. Parle-moi de toi.
Attends. Je vais éteindre. Elle est trop moche, cette lumière.
Franck remonta le store et la chambre, qui était orientée à l'ouest, baigna soudain dans une douce pénombre. Il bougea ensuite le fauteuil de place pour se trouver du côté de la bonne main et la prit entre les siennes. Il eut du mal d'abord à trouver ses mots, lui qui n'avait jamais su parler ni se raconter. Il commença par des bricoles, le temps qu'il faisait à Paris, la pollution, la couleur de sa Suzuki, le descriptif des menus et toutes ces bêtises. Et puis, aidé en cela par le déclin du jour et le visage presque apaisé de sa grand-mère, il trouva des souvenirs plus précis et des confidences moins faciles. Il lui raconta pourquoi il s'était séparé de sa petite amie, comment s'appelait celle qu'il avait dans le collimateur, ses progrès en cuisine, sa fatigue. Il imita son nouveau colocataire et entendit sa grand-mère rire doucement.
« Tu exagères. »
« Je te jure que non. Tu le verras quand tu viendras nous voir et tu comprendras. »«
Oh, mais j'ai pas envie de monter à Paris, moi. »«
Alors, on viendra à nous et tu nous prépareras un bon repas. »«
Tu crois ?»«
Ouais. Tu lui feras ton gâteau de pommes de terre. »«
Oh bah non, pas ça, c'est trop rustique. »
Il parla ensuite de l'ambiance du restaurant, des coups de gueule du chef, de ce jour où un ministre était venu les féliciter en cuisine, de la dextérité du jeune Takumi et du prix de la truffe. Il lui donna des nouvelles de Momo et de Madame Mandel. Il se tut enfin pour écouter son souffle et comprit qu'elle s'était endormie. Il se leva sans faire de bruit. Au moment où il allait passer la porte, elle le rappela.
« Franck ?»«
Oui ?»«
J'ai pas prévenu ta mère, tu sais. »«
T'as bien fait.
Je... »«
Chut, il faut dormir maintenant. » Plus tu dormiras, et plus vite tu seras sur pied.
Il se sentit agressé par la violence des néons et mit un temps fou à retrouver son chemin. Il roula vite, s'effondra et s'étouffa dans son oreiller pour ne pas craquer. Pas maintenant. Il avait tenu le coup si longtemps. Il pouvait lutter encore un peu.
Café ?
Non, Coca-Cola, s'il vous plaît.
Camille le but à petite gorgée. Elle s'était accoudée dans un café en face du restaurant où sa mère lui avait donné rendez-vous. Elle avait posé ses deux mains bien à plat de chaque côté du verre et fermé les yeux en respirant lentement. Ses déjeuners, si espacés fussent-ils, lui bousillaient toujours les intestins. Elle en ressortait pliée en deux, chancelante et comme écorchée vive. Comme si sa mère s'appliquait avec une méticulosité sadique et probablement inconsciente, quoique... à gratter les croûtes et à rouvrir une à une des milliers de petites cicatrices. Camille l'aperçut dans le miroir derrière les bouteilles qui franchissaient les portes du paradis de Jade. Elle fuma une cigarette, descendit aux toilettes, paya sa consommation et traversa la rue, les mains dans les poches et les poches croisées sur son ventre. Elle aperçut sa silhouette voûtée et vint s'asseoir en face d'elle en prenant une longue inspiration.
Jomon.
Mais tu m'embrasses pas ?
Bonjour maman.
Ça va ?
Pourquoi tu me demandes ça ?
Camille s'agrippa au bord de la table pour ne pas se relever immédiatement.
Je te demande ça parce que c'est en général ce que les gens se disent quand ils se rencontrent.
Je suis pas les gens, moi.
Oui, t'es quoi alors ?
Oh, je t'en prie, ne commence pas, hein ?
Camille détourna la tête et regarda la décoration immonde, faite de stucs et de bas-reliefs pseudo-asiatiques. Les incrustations d'écailles et de nacre étaient en plastique et la laque en formica jaune.
C'est joli ici.
Ah non, c'est affreux, mais j'ai pas les moyens de t'inviter à la tour d'argent, figure-toi. D'ailleurs, même si je les avais, je t'y emmènerais pas. Avec ce que tu manges, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres.
Ambiance. Elle se mit à ricaner amèrement.
Note bien, tu pourrais y aller sans moi, parce que t'en as de l'argent, toi. Malheur des uns fait le bon.
Arrête ça tout de suite. Arrête ça ou je m'en vais. Si t'as besoin d'argent, tu me le dis et je t'en prête.
Oh, c'est vrai que mademoiselle travaille, un bon travail, intéressant, en plus, femme de ménage. Ah, c'est pas croyable, hein, venant de quelqu'un d'aussi bordélique. Tu cesseras jamais de m'étonner, tu sais.
Stop, maman, stop. On peut pas continuer comme ça. On peut pas, tu comprends ? Enfin, moi, je peux pas. Trouve autre chose, s'il te plaît, trouve autre chose.
Mais t'avais un beau métier, t'as tout gâché.
Un beau métier ? N'importe quoi. Et je le regrette pas, en plus. J'étais pas heureuse là-bas.
Tu serais pas restée toute ta vie. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, heureuse ? C'est le nouveau mot à la mode, ça. Hein ? Heureuse, heureuse. Ah, si tu crois qu'on est sur cette terre pour batifoler et cueillir des coquelicots, t'es bien naïve, ma fille.
Non, non. Assure-toi, je ne crois pas ça. J'ai été à bonne école et je sais qu'on est là pour en chier. Tu me l'as assez répété.
Vous avez choisi ?
Leur demanda la serveuse. Camille l'aurait embrassée. Sa mère étala ses pilules sur la table et les compta du doigt.
T'en as pas marre de prendre toutes ces merdes ?
Parle pas de ce que tu connais pas. Si je les avais pas, je serais plus là depuis longtemps.
Qu'est-ce que t'en sais d'abord ? Et pourquoi t'enlèves jamais ces lunettes affreuses ? Y a pas de soleil ici.
Je suis mieux avec. Comme ça, je vois le monde tel qu'il est.
Camille décida de lui sourire et lui tapota la main. C'était ça ou lui sauter à la gorge pour l'étrangler ? Sa mère se dérida, gémit un peu, évoqua sa solitude, son dos, la bêtise de ses collègues et les misères de la copropriété. Elle mangeait avec appétit et fronça les sourcils quand sa fille commanda une autre bière.
Tu bois trop.
Ça, c'est vrai. Allez, trinque avec moi, pour une fois que tu dis pas de bêtises.
Mais tu viens jamais me voir.
Et là, je fais quoi, là ?
Toujours le dernier mot, pas vrai ? Comme ton père.
Camille se figea.
Ah, t'aimes pas quand je parle de lui, hein ?
Maman, je t'en prie, ne va pas dans cette direction.
Et je vais où je veux. Tu finis pas ton assiette ?
Non.
Sa mère secoua la tête en signe de désapprobation.
Mais regarde-toi, on dirait un squelette. Si tu crois que tu donnes envie aux garçons...
Maman.
Quoi, maman ? C'est normal que je me fasse du souci pour toi, on met pas des enfants au monde pour les voir dépérir.
Tu m'as mise au monde pour quoi, toi ?
En même temps qu'elle prononçait cette phrase... Camille sut qu'elle était allée trop loin et qu'elle allait avoir droit à la grande scène du 8. Un numéro sans surprise, 1000 fois répété et parfaitement au point. Chantage affectif, larmes de crocodile et menace de suicide. Placée ou dans l'ordre. Sa mère pleura, lui reprocha de l'avoir abandonnée, tout comme l'avait fait son père 15 ans auparavant, lui rappela qu'elle n'avait pas de cœur et lui demanda ce qui la retenait sur cette terre.
« Donne-moi une seule raison d'être encore ici, une seule. »
Camille se roulait une cigarette.
« Tu m'as entendu ?»«
Oui. » »«
Alors ?» Merci, ma chérie, merci. Ta réponse est on ne peut plus clair.
Elle renifla, posa 2 tickets restaurant sur la table et s'en alla. Ne pas s'en émouvoir surtout. Le départ précipité ayant toujours été l'apothéose, le tombé de rideau en quelque sorte, de la grande scène du 8. D'habitude, l'artiste attend la fin du dessert, mais c'est vrai qu'on était dans un chinois aujourd'hui et que sa mère n'aimait pas particulièrement leurs beignets, litchi et autres nougats trop sucrés. Oui, ne pas s'émouvoir. C'était un exercice difficile. Mais Camille avait rodé son petit kit de survie depuis le temps.